Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Billy Van Lutumba. Pour vous informer en ce midi, nous vous faisons le point sur la situation sous les différentes lignes de front dans la province du Nord Kivu, territoire des Rutshuru, concernant les affrontements entre les rebelles du M23 et l'armée régulière. Mais sachez que du côté Kichanga, les populations se sont vidées à la suite de ces affrontements. Toujours dans ce journal, vous aurez une idée sur les niveaux d'avancement des travaux du site papal où se déroulera toutes les manifestations concernant la visite du souverain pontife à Kinshasa, ici en RTC. Le lieutenant-colonel Marc Azoukaye est porte-parole des opérations conjointes armées au Congolais et UPDF. Notre invité que nous recevons ce midi va nous parler des dispositions en rapport avec toutes les attaques dans la zone. Mesdames et messieurs, merci de votre choix pour vous informer sur Radio Kapi. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Dans le Nord Kivu, la situation toujours tendue depuis Kichanga et environ après la prise hier de la cité par les rebelles du M23. Kichanga est situé à plus ou moins 70 km au sud-ouest de la ville de Goma dans le territoire de Masisi. Les sources concordantes dans la région contactées affirment que les détonations nourries à l'arme lourde sont entendues depuis ce matin vers le village de Burungu où les rebelles ont délogé l'armée après 3 jours d'après-combat. Le point de la situation avec vous, Alain Hirung.
Des tirs nourris à l'arme lourde sont entendus depuis ce matin dans les villages environnant la cité de Kichanga, plus exactement à Burungu. Ces tirs proviendraient des positions des FRDC qui se seraient retranchées non loin de ce village. Les sources officielles anonymes affirment que l'armée tente de réoccuper Burungu pour réorganiser les assauts sur la cité de Kichanga, où les rebelles du M23 ont mené une patrouille de ratissage cette nuit aux alentours de la cité, ainsi qu'à la base de la MONUSCO. Après la chute de la cité de Kichanga hier aux environs de 18h locales, les rebelles auraient pris la direction de la cité Mueso où ils auraient installé leur dernière position à Ndondo, environ 1 km de Kichanga, confirment les sources anonymes dans le groupement de Bachali Kaembe. Actuellement, la cité s'est vidée de ses habitants. Prise de panique à l'entrée des rebelles, une partie de la population a trouvé refuge à la base de la MONUSCO, alors que d'autres habitants se sont dirigés vers Mueso Kashuga, Kalembe et les plus courageux ont gagné les villages sur l'axe Kichanga-Mpati. Sur d'autres fronts à Kibumba, dans le territoire de Niragongo, la situation reste calme. Et plus à l'est, vers Nyamilima, dans le territoire de Rutshuru, un calme précaire s'observe sur l'axe Kiwanja-Katwiguru, Kiseguru et Nyamilima, où les rebelles s'affrontent régulièrement aux groupes armés actifs dans cette zone. Pour l'instant, la ville de Goma est complètement coupée de la partie nord de la province, ce qui pourrait entraîner des conséquences socio-économiques néfaste sur la survie de la population de Goma.
Merci bien Alain Rung pour ce point. Nous restons toujours dans la même zone nord Kivu. La cité de Kichanga, vidée de ses habitants depuis hier jeudi dans la soirée, c'est suite au combat entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise, un combat qui se sont soldés par la prise et le contrôle de la cité par les rebelles qu'on venait de le suivre. Des dizaines de ménages de cette cité du territoire de Massy sont trouvés refuge dans et autour de la base de la MONUSCO dans cette cité. Des femmes et enfants sont forcés de se déplacer pour se mettre à l'abri. Cet habitant, joint depuis la base de la MONUSCO à Kichanga, salue les premiers cours de la mission onusienne apportée à ses déplacés. Il parle d'autres besoins, notamment humanitaires, qui restent à couvrir. Il sollicite aussi l'évacuation de certains chefs indexés par les rebelles. On l'écoute.
Des agglomérations au clé des groupements Bachali Mokoto, Kichanga, qui est le chef-lieu de la chefferie de Bachali et qui a été vidé de 99% de sa population vers plusieurs directions. Et évidemment, bon nombre, soit 90% des déplacés qui ont pris la route Mueso. D'autres se sont dispersés dans les différents villages du groupement Yayer. Par contre, il y a aussi une centaine qui se sont réfugiés pour la protection de la base de la MONUSCO. Les besoins sont vraiment énormes, surtout en vivres. Parce que ceux qui sont là, les villages vidés, il n'y a pas à manger, certains enfants qui tombent malades, les conditions en tant que déplacés sont toujours inhumaines. Nous aussi, là où nous sommes, on a quand même de l'espoir, le gouvernement peut encore nous venir en aide et peut-être être sauvé.
Nous tentons de vous faire un point complet sur cette situation. La ville de Goma, isolée de la partie nord de la province, notamment des territoires des Rutshuru, Lubero, Beni et de la ville de Butembo. Sachez que la route de Kichanga, la seule voie qui restait pour les usagers pour atteindre Goma, vient aussi d'être coupée. C'est suite aux affrontements qui opposent depuis plusieurs mois maintenant les FARDC aux rebelles du M23 dans la région. Et du coup, la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, est coupée de cette partie. Le point avec Grace Hamzati.
Cela fait plus de 7 mois que le trafic routier Goma Kiwanja Butembo Beni est coupé. La voie secondaire, la seule d'ailleurs, celle de Kichanga dans les territoires des Massisi qui faisait la liaison pour les ravitaillements en produits alimentaires, vient d'être également coupée depuis plus de 3 jours maintenant. C'est la conséquence des affrontements entre les deux belligérants dans cette région. Et du coup, la ville de Goma reste totalement coupée et isolée de la partie nord de la province. Il s'observe déjà une hausse des prix des produits alimentaires sur les marchés. Goma n'étant plus approvisionné en haricots, maïs et autres produits cultivés localement. Inquiétude de l'association des chauffeurs du Congo à Seko Nord Kivu. Ses responsables parlent des conséquences néfastes sur la vie sociale des populations de Goma. Du reste, ils sont asphyxiés. Mais également, l'économie de la province qui est par terre. Ils appellent le gouvernement congolais à tout mettre en œuvre pour le rétablissement de la paix et de la sécurité.
Nord Kivu, encore des nouveaux affrontements opposés ce vendredi matin. Deux groupes miliciens, Maïmaï à Mohangi Mambira, une localité du territoire de Lubero. Ils se disputent l'occupation de cette localité, chef-lieu du groupement de Boulengia. Grévis Salomo pour les détails.
Ce sont les miliciens du groupe Maïmaï Mazembe qui ont attaqué ceux du groupe FPP-AP. C'était aux environs de 6h30, heure locale. Selon des sources locales, des combats ont duré une vingtaine de minutes. Le groupe Maïmaï Mazembe tente de prendre le contrôle de la localité de Mwangi Mambira, occupée depuis quelques jours par des Maïmaï du groupe FPP-AP. D'après la même source, certains miliciens ont été blessés pendant les combats. Une femme a également reçu une balle perdue à la cuisse et se trouve actuellement dans une structure sanitaire locale. Depuis 3 jours, toutes les activités socio-économiques sont paralysées dans la localité de Mwangi Mambira. La population a également abandonné la zone pour se déplacer vers d'autres milieux supposés sécurisés dans le groupement de Boulengia. Nous n'avons pas pu avoir la réaction des FARDC.
À Ituri, les manifestations pour dénoncer l'arrestation du porte-parole des 5 communautés victimes des atrocités des groupes armés G5 se poursuivent ce vendredi dans les localités d'Iga Barrière, Lopa et Nizi, dans le territoire de Djougou. Des jeunes en colère ont cassé les barrières des services de l'État qui perçoivent des taxes sur la route. Les maisons de commerce sont toujours fermées, le trafic perturbé sur la RN27 et d'autres axes secondaires. Cependant, à Bounia, les activités économiques ont repris normalement ce matin, comme nous le dit Isaac Remoyopé.
Ce vendredi matin, des jeunes ont brûlé des pneus et entassé des pierres sur la chaussée au centre commercial d'Iga Barrière pour exprimer leur colère. Ces manifestations sont également observées dans les localités voisines de Lopa et de Nizi, ce qui a paralysé les activités économiques. Les marchés et les boutiques sont fermés pour la deuxième journée. Les manifestants ont également cassé les barrières des services de perception des taxes, dont la DGRPI et les FONER, qui ont suspendu leurs activités dans ces 3 entités où la tension est encore vive. Ces jeunes exigent la libération de Victor Ngona, porte-parole des 5 communautés victimes des atrocités des groupes armés en Ituri, arrêtées la nuit de mercredi à jeudi par les services de sécurité à Bounia. Le trafic est également perturbé sur les tronçons Bounia-Mahagi et d'autres axes routiers Bounia-Mungwalu, précise certaines autorités coutumières locales. Cependant, à Bounia, chef-lieu de la province, les maisons de commerce ont rouvert ce matin leurs portes. Mais au marché central, les activités ont repris à 70%. Certains marchands ont peur de revivre les scènes d'hier où une panique était observée suite au tir des forces de l'ordre pour étouffer la manifestations populaires. Certaines personnes ont fui et abandonné leurs biens et de l'argent qui ont été emportés par des bandits. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Quelques mots sur la visite prochaine du souverain pontife. En sa qualité de président du comité d'organisation de l'accueil du pape, le premier ministre Jean-Michel Samalukonde a présidé jeudi à l'immeuble du gouvernement la réunion hebdomadaire d'évaluation en vue de voir les derniers détails avant l'arrivée du souverain pontife prévue pour le 31 janvier prochain. Toutes les commissions concernées ont pris part à cette rencontre. Et à quelques jours de ce grand événement, Monseigneur Hector, le nonce apostolique, se dit satisfait de l'évolution des préparatifs. Il reste confiant. Quant au réglage des derniers détails restants, il l'a dit à la presse à la fin de cette réunion. Mais suivez plutôt le point que nous fait le responsable du site qui préparait cet espace pour accueillir le pape François.
On peut aujourd'hui dire que tous les travaux ont pris fin. À ce stade, il ne reste plus que les travaux décoratifs simplement, floral, aménagement et autres, mais l'ensemble des travaux, des constructions, des tribunes, des aménagements des sites, on peut aujourd'hui dire que nous annonçons la fin des travaux. Et les restes des travaux, nous allons le faire progressivement, la décoration, parce que comme vous savez, Kinshasa, depuis quelques jours, est arrosé par la pluie. Et je crois que nous suivons également la météo pour nous permettre, au dernier jour, les 28, les 29, les 30, pour faire la dernière main sur les petits travaux qui restent à faire. Donc aujourd'hui, les Kinois et Kinoises, les Congolaises et Congolaises en général, peuvent être rassurés que l'ensemble des sites sont complètement aménagés et ils pourront donc se déplacer nombreux pour vivre cet événement unique.
Comme dit le pape François, est attendu le 31 janvier prochain en République démocratique du Congo, 37 ans après la visite du pape Jean-Paul II. Ce dernier était également arrivé à Lubumbashi où il avait dit la messe devant une foule immense. Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, en garde des bons souvenirs. Il en trace quelques-uns au micro de Jean Gando.
J'ai gardé principalement deux souvenirs mémorables. D'abord, la joie et la fierté de la foi catholique. La présence du Saint-Père, en effet, avait réuni une foule innombrable, jamais vue à Lubumbashi, qu'elle nous a permis de mesurer la pertinence de la foi catholique. Ensuite, je garde le souvenir de la contagion de la foi du pape. Il est vrai qu'à l'époque, on est en 1985, j'étais encore jeune séminariste, mais en voyant le pape célébrer l'Eucharistie avec tant de ferveur et en écoutant sa voix, j'avais l'impression d'écouter le Christ et de voir le Christ lui-même. J'avoue que j'ai eu les mêmes sentiments quand, devenu évêque, j'ai assisté pour la première fois à une audience accordée par le Saint-Père à un groupe d'évêques dans le palais pontifical à Rome. C'est dire que la puissance de la foi de ce personnage est vraiment extraordinaire. Et ses souvenirs ne sont pas prêts à s'effacer de ma mémoire.
À quelques jours de l'arrivée du pape François à Kinshasa, les travaux du mausolée du bienheureux Isidore Bakanja dans la cité de Bokoté dans la province de l'Équateur évoluent bien. Déclaration du ministre d'État de l'Aménagement du territoire qui se félicite de l'évolution de la construction. Maître Guilo Andomboyo vient de boucler sa mission officielle d'inspection des travaux dans les provinces de la Chuapa et de l'Équateur. À Boende, il a démarré cette inspection par la visite des chantiers des travaux de modernisation de l'aérogare et de la voirie urbaine. À ce jour, l'entreprise qui exécute ces travaux parle déjà des travaux de finissage. On écoute Maître Guilo Andomboyo dans cet extrait proposé par Pelikipe Lamonde.
C'est toujours un motif de fierté lorsque le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, dans sa vision éclairée pour le développement, je suis content, comme le ministère à qui revient la charge du suivi et du contrôle, parce que le suivi et le contrôle de ce projet, la construction du sanctuaire et tous les autres compartiments ici à Bokoté a été confié au ministère de l'Aménagement du territoire. Et donc dans le cadre de l'itinérance, le suivi et le contrôle des travaux, c'était très important pour moi de venir au-delà des rapports. Il faut le dire que nous recevons des rapports de la part de nos délégués ou de la part de l'Église catholique. Mais il était quand même question de venir constater l'état d'avancement des travaux, constater aussi les difficultés. Mais là, je viens de constater qu'il y a évidemment des écarts par rapport aux prévisions. Je repars avec un motif de satisfaction et le rapport sera fidèlement transmis à qui de droit pour la bonne marche et la poursuite des travaux dans ce site hautement spirituel pour l'Église catholique.
Silence radio dans la province pendant 3 jours dans la province du Kwango. Les radios et télévisions ne vont pas émettre pendant 3 jours dans cette province à dater de ce vendredi 27 janvier 2023. La décision a été prise hier jeudi à Kenge au cours d'une réunion de tous les journalistes de cette ville. C'est pour dénoncer des arrestations arbitraires, des menaces et intimidations dont ils sont victimes de la part des autorités politico-administratives de cette province. C'est notamment le cas du journaliste Olivier Makambu qui totalise 2 mois en prison sans être jugé. Le président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC Congo, parle des violations flagrantes de la liberté de presse et plaide pour un environnement favorable à l'exercice du métier de journaliste au Congo. Georges Kilumbo est joint au téléphone par Irène Bouma.
Après avoir recensé les différents maux qui gênent l'exercice de la liberté de presse chez nous au Congo, il s'est avéré que depuis un certain temps, les journalistes sont devenus la cible de plusieurs humiliations de la part de certains pouvoirs politiques et publics. Nous avons même un confrère qui croupit encore en prison. Aujourd'hui, ça fait 2 mois. Et nous avons encore un qui vient d'un cachot et un autre qui n'est même pas ici à Kenge pour toutes ces raisons-là. Et pour répondre à ce traitement dégradant, l'UNPC qui accompagne les journalistes a décidé une période de 3 jours sans radio. Mais le message que nous voulons passer, les autorités politiques ou administratives ou n'importe qui qu'ils soient, reconnaître que nous sommes le 4e pouvoir. Et en étant 4e pouvoir, ils nous laissent libres d'exercer notre métier. Et nous savons que quand nous exerçons notre métier, c'est avec l'éthique et la déontologie. Nous voulons qu'ils respectent en fait notre métier comme nous respectons le leur. Qu'ils laissent enfreindre notre liberté, de ces intimidations que nous décrions et toutes ces menaces de différents ordres.
Actualité internationale.
La crise de l'électricité qui sévit en Afrique. Excusez-moi. Je disais, l'Afrique de l'électricité qui sévit en Afrique du Sud a causé la mort de 40 000 poulets dans une exploitation avicole du nord-ouest du pays. Les volatiles ont suffoqué. Après le délestage, le courant est revenu, mais les volts dans la maison n'étaient pas suffisants. L'ordinateur a un système de protection contre les défaillances de phase intégrée, mais les générateurs ne se sont pas mis en marche, car l'entreprise publique Eskom avait remis le courant. Il y avait donc de l'électricité, mais pas assez de volts. Alors l'ordinateur s'est éteint. Le système de ventilation a alors cessé de fonctionner et les poulets sont morts asphyxiés, explique Herman Duprise, propriétaire de la ferme Frangipani Bordier.
L'invité.
La région de Beni vient de connaître 2 attaques à la bombe piégée en l'espace de 10 jours. Le dernier cas remonte au mercredi soir dans un moulin à farine au quartier Macampagne de la ville de Beni. L'explosion a fait 18 blessés. Qu'est-ce qui justifie cette situation et que faire pour anticiper et prévenir ces attaques? Pour en parler, nous recevons le porte-parole des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises contre les ADF. Le lieutenant-colonel Mac Azukai s'entretient avec Martial Papi Mukeba.
Colonel Mac Azukai, bonjour.
Bonjour.
10 jours après l'attaque à la bombe à Kassindi-Loubiria, la ville de Beni vient d'être touchée par l'explosion d'une bombe artisanale au quartier Macampagne. Qu'est-ce qui justifie cette situation?
Vous vous souviendrez qu'il y a plusieurs années, nous avions sensibilisé les gens sur la menace ADF, qu'on a cherché à démontrer à la population qu'il s'agissait effectivement d'un mouvement terroriste qui avait fait allégeance au Daesh. Et aujourd'hui, les événements nous donnent raison. Quand vous parlez de la répétition de ces attentats, c'est consécutif aux tracts, les différentes tracts que nous sommes en train de faire dans cette forêt. Vous savez que nous avons réussi à restreindre le mouvement de l'ADF dans cette forêt. Avant, il circulait librement, il s'est livré à un tourisme criminel dans cette forêt. Avec les opérations conjointes FARDC et UPDF, nous avons réussi à restreindre ce mouvement, à l'obliger à se rendre. Suivez mon regard, depuis 4 mois, il y a une avalanche de redditions, une avalanche de délivrance des otages. Ça prouve que l'ennemi, effectivement, est en difficulté. Et comme il ne sait plus s'attaquer frontalement aux forces de la coalition, il a actionné ses kamikazes pour s'attaquer à la paisible population.
Mais au même moment, il s'observe la multiplication des attaques ADF dans certains villages du territoire de Beni.
Parce que moi, je parle au nom de la coalition. Il faut voir d'abord la cartographie. Les forces de la coalition ne sont pas dans tout le territoire de Beni et d'Irumu. Il y a une partie qui est là, qui nous a été délimitée, où nous faisons la manœuvre avec nos partenaires de l'UPDF. Nous avons réussi quand même à fixer l'ADF et il n'est pas très très actif dans cette partie-là. Parce que on a tous constaté que l'ennemi a migré vers l'ouest qui échappe aux forces de la coalition.
À vous écouter parler, donc dans la planification et la conduite des opérations, il y a des zones sous responsabilité de la force de la coalition FARDC-UPDF, mais aussi des zones sous la responsabilité uniquement des FARDC.
Nous œuvrons dans une zone qui a été délimitée par la hiérarchie. C'est dans cette zone-là que nous sommes actifs en tant que force de la coalition FARDC-UPDF.
Et à ces jours, quels sont les bastions importants des ADF qui sont déjà récupérés ou détruits par les armées congolaises et ougandaises une année après les lancements des opérations conjointes FARDC-UPDF?
Il est trop tôt de faire l'évaluation des opérations, donc nous sommes en train de travailler et le jour où nous allons nous réunir ensemble pour évaluer, on saura vous dire avec beaucoup de précision comment les choses ont évolué. Mais sinon, pour l'instant, comprenez que nous sommes très actifs et nous avons le contrôle de Mwalika, nous avons le contrôle de Rwenzori et nous avons le contrôle du sud du Rum, c'est-à-dire Kainama, Boga, Tchabi, Borassi. Ce sont les zones où nous sommes en train de manœuvrer. Vous comprendrez que dans cette zone-là, il y a une accalmie. Même si nous ne sommes pas venus chercher une accalmie, la mission, c'est d'éradiquer le phénomène ADF.
Qu'est-ce que vous conseillez à la population de Beni pendant cette période où il s'observe des explosions, des bombes artisanales ou des bombes piégées dans la région?
Nous devons nous prendre en charge. C'est ce que je dirais à la population. Se prendre en charge, c'est pas nécessairement prendre les armes. C'est-à-dire que nous devons nous surveiller mutuellement, nous devons nous contrôler. Par exemple, éviter des attroupements dans des endroits qui ne sont pas sécurisés. Vous savez, un seul terroriste vivant est une menace. Ce que je conseillerais à la population, c'est d'être prudente. Par exemple, de ne pas transporter des colis dont ils ne connaissent pas le contenu et le propriétaire. Éviter de vendre des batteries, des petites batteries de moto à des personnes que vous ne connaissez pas. Parce que ce sont ces accessoires-là qui servent pour la fabrication des bombes. Donc ces petites mesures-là, si nous les observons, ça peut nous aider à nous sécuriser.
Colonel Mac Azoukai, merci.
C'est à moi de vous remercier.
À vous aussi, auditeurs de Radio Capinou, partout où vous nous suivez, nous vous disons merci d'avoir été des nôtres. Ce journal a été mis en onde par Alain Goy, préparé par Pelé Kipela Mondo et l'ensemble de toute la rédaction. Et Billy Yvan Lutumba vous l'a présenté au nom de toute cette équipe. Je vous dis sincèrement merci pour votre attention soutenue.